Alors, maintenant, je ne vais pas développer plus longtemps ceci et je vais passer directement à la deuxième colonne. Le discordisme est la position qui consisterait à dire, bon, il y a des dangers dans le concordisme, on risque de se retrouver dans le panthéisme, on risque de confondre des choses qui ne peuvent pas être confondues, donc séparons. Séparons. Et en séparant, on dit, bon, il y a d'un côté les contenus, par exemple, bibliques, et de l'autre les contenus scientifiques, et ça n'a rien à voir. On écarte les deux, si vous voulez. On dit, d'un côté, il y a le contenu biblique, et ça, c'est une belle histoire qu'on raconte aux enfants le soir, quand ils ne comprennent plus rien à rien et qu'ils veulent s'endormir. Ce sont les rêves. Et de l'autre, il y a les choses sérieuses. Ça, c'est ce qu'on fait au laboratoire. Hein, ça, c'est quand on est bien réveillé et qu'on est performant, alors c'est ceci. Ça, c'est bon, le week-end, quand on écoute les belles histoires de vieux monsieur avec des barbes blanches qui racontent des histoires sur... vous voyez, ça, c'est typiquement le discours. Il y a le monde féerique, hein, d'un côté, c'est de la pure poésie, c'est joli... mais enfin, ça n'a rien à voir avec le monde sérieux, ce monde que j'observe, j'expérimente, sur lequel j'agis, dans lequel je vis, etc., etc. Ça, ce serait un discordisme exégétique. À la limite de dire, l'écriture, par exemple, et l'enseignement du magistère n'ont aucune prise sur le monde empirique, si vous voulez. Ce serait simplement un monde, deux mondes juxtaposés. Autrement dit, ceci, vous y croyez, ben parce qu'on vous a toujours dit ça, et vous êtes dans une gentille famille qui vous a toujours dit ça, ou bien vous avez rencontré des gentils amis, un philanthropos qui avait l'air d'être sympathique, et ils croient en ça, eux, et puis bon, vous dites, ben oui, pourquoi pas, c'est une belle histoire, etc. Mais vous savez, en fait, que c'est faux. Enfin, ou vous croyez à ça, c'est un monde virtuel, comme on dit aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont sur des sites où ils prennent une autre identité, hein, ils rêvent. Ils sont chefs d'orchestre, ils se découvrent milliardaires, gérants des, vous voyez, bon, et toute la nuit ils sont banquiers avec une fortune gigantesque, avec des belles villas, etc. Et puis le matin ils vont travailler à la poste, et ils sont bon, mais le soir vite ils sont là-dedans. Et ça c'est le rêve, et l'autre c'est le monde réel. Monde réel où il reçoit une facture et malheureusement il doit l'honorer, il n'a pas assez de sous, tandis que la nuit il est dans ce monde virtuel. Ça, c'est le discordisme. Alors ce discordisme est très dangereux parce que, en fait, il laisserait sous-entendre que la révélation et ce qui nous est donné dans la foi, en réalité est de l'ordre de la pure fantasmagorie, du pur virtuel, du rêve. De ces belles histoires qui sont... Attention qu'il y a de très belles histoires dans la Bible, mais ce n'est pas seulement des belles histoires. En fait, c'est emprise sur quelque chose, sur ce monde véritable, qui est aussi le monde du scientifique. Je veux dire, la révélation biblique s'adresse à l'homme de chair et de sang que le biologiste étudie aussi. Vous voyez ? Alors, de manière ontologique, le discordisme voudrait dire l'objet de la théologie... en fait, est en rupture par rapport à l'objet de science. Dieu n'a rien à voir avec le monde. Alors, cette position-là, c'est une position que vous pouvez trouver dans l'agnosticisme, par exemple. Dieu existe, je n'en sais rien, peut-être. En tout cas, je ne pourrais rien en dire, parce qu'il a aucun contact avec moi. Ou bien, c'est la position des théistes qui disaient... Hein, par exemple, vous avez ça dans les Lumières, la position des Lumières, des encyclopédistes, d'Alembert, Diderot, etc., Voltaire, qui croyaient à un grand architecte, mais dans le fond, qui n'avait rien à voir avec le monde. Oui. Ou bien le dieu premier moteur d'Aristote, d'une certaine manière. Encore qu'il a un contact avec le monde puisqu'il donne une impulsion initiale, mais dans le fond, le dieu premier moteur n'a pas de contact, n'a pas de contact personnel avec moi. Dieu serait... en complète rupture avec le monde. Peut-être qu'il serait simplement là au début pour donner l'impulsion initiale. C'est ce que disait Laplace, hein, le grand mathématicien, physicien français, auquel Napoléon demandait « Mais enfin, Laplace, où est Dieu dans votre système astronomique ?» Et Laplace dit, mais sire, je n'ai rien à faire de cette hypothèse. Et puis il a dit, ah si quand même, il faut qu'il donne l'impulsion initiale au monde, il donne une chiquenaude. Donc Dieu n'est là que pour donner une chiquenaude qui met en route le monde, et puis le monde se débrouille et Dieu n'a plus rien à voir avec le monde. Ça c'est typique du discordisme. Alors, aujourd'hui, si bon nombre de grands scientifiques sont plutôt des concordistes et des panthéistes, un certain nombre de grands scientifiques aussi développent parfois une position qu'en anglais on appelle aujourd'hui la position du noma. Noma principle. Alors, noma veut dire l'acronyme en anglais de non-overlapping magisteria. Donc, le principe de non-recouvrement des magistères. Les magistères, c'est ce qui est dit par les maîtres, magistères. Hein. Le maître parle, et il y a le maître scientifique, il y a le maître en théologie, etc. Et les Anglais disent, pour avoir la paix sociale, il faut que les magistères ne se recouvrent pas. Donc, que les théologiens évitent d'aller dire des choses aux scientifiques, et que les scientifiques, surtout, n'aillent pas embêter les théologiens. D'accord ? Il y a d'un côté the age of the rocks et de l'autre the rock of the ages. Hein? C'est une chanson protestante américaine qui fait ce jeu de mots entre l'âge des roches et le rock des âges. Hein? Jesus is the rock. Hein? And he throws my blues away. Hein? The rock of the ages. Hein? Le sol sur lequel je vais bâtir les âges. Ça, c'est la théologie. And the age of the rocks, c'est la géologie. C'est l'âge des roches, etc. Et Stephen Jay Gould, qui est un grand paléontologue américain, par ailleurs marxiste, donc tout à fait athée. Et Stephen Jay Gould, c'est celui qui a popularisé ce qu'on a appelé le Big Bang biologique du précambrien. Vous savez peut-être je reviendrai un petit peu, mais dans les schistes de Burgess au Canada, on trouve, à une période qui correspond au précambrien, une explosion des formes de vie hallucinante, tel point que certaines espèces s'appellent l'hallucigénia. Donc il y a des formes de vie que l'on ne rencontre plus aujourd'hui avec des plans aberrants. Vous avez des bêtes avec des structures très bizarres, avec des espèces de cylindres, avec des pointes, d'où sortent des tubes, avec des boules, des plans qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Mais il y a une diversité de plans du vivant extraordinaire, on appelait ça le Big Bang biologique, puis qui correspond en gros à la découverte dans l'histoire de la biologie de molécules qui collent les tissus, les cellules ensemble. Donc c'est le passage, si on veut, au pluricellulaire, etc., qui donne des formes de vie extraordinaires. Bon, alors Stephen Jay Gould est un des grands spécialistes popularisateurs de cette découverte, et Gould disait il faut absolument respecter le noma principle, parce que aux États-Unis, vous savez que dans les années 20, on a traîné devant les tribunaux, et encore dans certains États des États-Unis aujourd'hui, les biologistes qui enseignent la théorie de l'évolution peuvent être traînés devant les tribunaux s'ils ne enseignent pas aussi des thèses justement concordistes. Alors Stephen Jay Gould disait non, ça c'est un peu trop fort, on ne peut pas traîner devant les tribunaux des gens qui enseignent une théorie que les scientifiques jugent intéressante, etc. Et lui a dit, mais pour avoir la paix, il faut séparer que les biologistes enseignent la biologie, que les théologiens enseignent la théologie, mais que chacun reste chez soi. Voilà. Ça, c'est le noma principal. Or, ce principe qui, dans le fond, assure la paix sociale, il y a deux chemins vers la vérité, et il n'interfère pas, etc., peut être très bien dans un premier temps, parce que, dans le fond, on a la paix, le scientifique croyant, il a la paix, il dit, mais moi, je ne fais que de la science, ce que je fais religieusement, quand je suis dans mon laboratoire, je suis dans un bon sort de vie. Quand je suis dans l'oratoire, laissez-moi tranquille, ça c'est ma vie privée. Alors, dans un premier temps, ça peut être bien. Mais dans un deuxième temps, on peut se demander, oui, mais est-ce que ce principe n'est pas dangereux ?